Bonjour à tous et à toutes. On peut se réjouir ce matin parce que c'est un jour merveilleux et glorieux que le Seigneur nous a donné de vivre. Et le Seigneur Jésus nous dit « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Ces paroles, vous les connaissez, ce sont celles de Jésus. Celles que Jésus a données à ses disciples quelque temps avant sa mort. Et Jésus annonce en même temps à ses disciples que le temps est venu pour lui de mourir et d'être glorifié auprès du Père. Il annonce aussi la trahison de Judas et le reniement de Pierre. Mais Jésus réconforte aussi ses disciples. Il les encourage à croire en Dieu et en croire en lui. Et il leur rappelle quel chemin ils doivent suivre. Jésus encourage ses disciples à garder les yeux fixés sur lui, car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui, leur dit Jésus. Jésus part leur préparer une place. Il part leur préparer une place pour eux et pour vous. Et il reviendra. Et il les prendra avec lui, afin que là où il est, ils y soient aussi. Cette promesse est pour eux, cette promesse est pour tous ceux qui l'aiment, pour tous ceux qui gardent ses commandements. Mais Jésus fait aussi une autre promesse ce jour-là. Il leur fait cette promesse de ne pas les laisser seuls. Il leur fait la promesse de l'envoi d'un Consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Alors je vous invite à lire ce matin, encore une fois, il est bon de lire plusieurs fois la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, du verset 1 à 13. Nous lirons encore une fois pour sceller cette vérité, parce que ces passages de la parole de Dieu font partie de vérités qui doivent être scellées dans nos vies. Actes 2, verset 1 à 13. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés dans le même lieu. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, ou les territoires de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion, nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. » Il n'en revenait pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, » disaient-ils. « Ils ont trop bu. » Alors ce passage que nous venons de lire se trouve dans les Actes des Apôtres, qui témoigne des événements qui vont de l'ascension de Jésus au ciel jusqu'au ministère de l'apôtre Paul. Jésus est mort et ressuscité lors de la Pâque juive et va rester 40 jours au milieu des croyants, leur parlant des choses qui concernent le règne de Dieu. Il recommande alors à ceux qui croient en lui, à ses disciples, de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre la venue du Saint-Esprit. Cette promesse est pour eux. Cette promesse va venir sur eux. Et au bout de 40 jours, Jésus est enlevé au ciel, ce que l'on appelle communément l'ascension de Jésus. Les apôtres et ceux qui croyaient retournèrent donc à Jérusalem selon l'ordre de Jésus pour attendre l'Esprit promis. Et pendant 10 jours, ceux qui ont cru dans son enseignement vont patiemment attendre l'accomplissement de cette promesse. Là, dans une habitation, précisément dans la chambre haute, qui était la partie supérieure de la maison, où ils avaient le coutume de se retirer pour prier, ils attendent. Ils étaient environ 120 personnes, 120 croyants, réunis et qui persévéraient dans la prière. 10 jours après l'ascension de Jésus, c'est le jour de la fête. C'est le jour de la fête à Jérusalem, la fête des semaines, fête de la moisson, fête juive, appelée Pentecôte. Cette fête prit le nom de Pentecôte, qui signifie en grec 50e, parce que cette grande fête se célébrait 50 jours après Pâques. Cette fête juive était la deuxième des 3 grandes fêtes annuelles juives. La fête de Pâques était la première et la fête des tabernacles la troisième. Très importante, première fête relative aux récoltes, elle marquait à la fois la reconnaissance du peuple pour les bénédictions que Dieu avait accordées et en même temps, comme les grandes fêtes juives, le témoignage du peuple envers les plus pauvres. Et c'est en ce jour de Pentecôte que le don de l'Esprit va être accordé aux croyants. Et en ce jour de Pentecôte, il y avait à Jérusalem beaucoup de juifs pieux, beaucoup de juifs qui venaient, comme il nous est dit, de différentes nations. Une multitude de personnes étaient réunies à Jérusalem en ce jour-là. Et c'est ce jour-là que Dieu a voulu pour que le don de l'Esprit soit accordé aux croyants. La puissance de Dieu va se manifester de manière vivante et puissante sur les croyants. En ce jour, c'est l'occasion unique de rendre témoignage de la vérité, de ce que Jésus a accompli sur la croix, et que ce témoignage de la vérité soit donné au plus grand nombre. C'est ce qui va avoir lieu. Alors tout d'abord, si le don de l'Esprit est accordé maintenant, c'est parce qu'il trouve sa place à l'achèvement de l'œuvre de Christ. Il trouve son accomplissement en Christ. Et le discours de Pierre, qui suit d'ailleurs cet événement, lie effectivement cette venue du Saint-Esprit à l'accomplissement du ministère de Jésus, à sa mort, à sa résurrection et à son exaltation. Pierre déclare des versets 22 jusqu'à 36 qui suit que c'est à la suite de son œuvre achevée, ce Jésus de Nazareth qu'ils ont cloué au bois et ressuscité des morts, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et alors il l'a répandu comme il le voit. S'il se produit maintenant, c'est que Jésus a achevé la mission qui lui était assignée. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il ressuscite, il fallait qu'il soit élevé à la droite de Dieu afin que le Saint-Esprit soit répandu sur les croyants. Pierre dit au verset 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et alors il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez aujourd'hui. » Cette venue du Saint-Esprit est donc fondée sur la mort et la résurrection de Christ, sans laquelle le Saint-Esprit n'aurait pas pu être répandu sur les croyants. Il fallait que l'œuvre rédemptrice de Christ soit accomplie pour que le Saint-Esprit vienne réaliser cette même œuvre dans le cœur de chacun des croyants. Jésus dit à ses disciples en Jean 16, il dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » La venue du Saint-Esprit est intimement liée à l'œuvre de Christ. Et en quoi consiste cette œuvre de Christ? Vous la connaissez. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ a donné sa vie à la croix, à notre place, à cause de notre péché. Il a porté sur lui le poids de nos péchés, notre fardeau. Il a donné sa vie, afin que par sa mort nous soyons délivrés de ce poids et que nous ayons par lui la vie. Le salut, ce salut accompli par Jésus est rendu effectif par le Saint-Esprit répandu sur ceux qui croient. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Pour celui qui croit en Jésus, il répand sur lui son esprit de vie. Le temps est donc venu, en ce jour de Pentecôte, pour que l'Esprit de Dieu soit répandu sur ses enfants comme promis. Ceux qui croient en Jésus et qui ont gardé ses commandements sont donc réunis dans un même lieu ce jour-là. Et il nous est dit au verset 2 que tout à coup, il vient du ciel, il vient d'en haut, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Un bruit qui vient d'en haut. Nous avons une indication très importante qui lie cette venue du Saint-Esprit d'en haut, qui vient de Dieu, qui vient du ciel et qui ne vient pas des hommes. Christ a été élevé à la droite de Dieu et il répand en ce jour son esprit d'en haut. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir sa source dans ce monde, car il ne vient pas du monde. Et celui qui le répand n'est plus dans ce monde. Mais voilà, aujourd'hui, il répand avec puissance et abondance l'esprit promis. Et acte 2 nous donne une description vivante et puissante de ce qui se produit le jour de la Pentecôte. L'effusion du Saint-Esprit apparaît ici de manière spectaculaire, aussi bien dans sa manifestation que dans les effets qu'il produit sur les croyants rassemblés. La manifestation que nous avons ici de l'Esprit de Dieu, nous en trouvons des manifestations semblables dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, à ce moment-là, c'est une manifestation unique, avec l'œuvre de Christ à la croix. Cette manifestation se caractérise par un bruit comme un vent impétueux et des langues de feu. Cette image fait écho à la présence de Dieu comme nous la connaissons dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous de la présence de Dieu sur le mont Horeb, lorsqu'il passe devant Élie. Il nous est dit que c'est un fort vent qui déchirait les montagnes. La venue du Saint-Esprit se manifeste par ce vent violent, ce vent impétueux qui remplit la maison. Cette image du vent qui souffle est souvent empruntée pour le Saint-Esprit. Et la puissance de Dieu se manifeste ici devant les hommes et remplit tout le lieu où ils se trouvent. Il n'y a rien qui échappe à la puissance de Dieu. Il remplit entièrement la maison, il couvre cette habitation. Alors l'Esprit de Dieu agit. Il nous est dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Pensez à ce qui se passe. L'action du Saint-Esprit est caractérisée au travers de cette image de feu, de flammèche. Là encore, dans l'Ancienne Alliance, lorsque l'ange de l'Éternel apparut à Moïse, nous avons une image de flamme de feu. Il nous est dit en Exode 3 au verset 2, « L'ange de l'Éternel lui est apparu à Moïse, dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. » Cette image caractérise encore une fois la présence de la puissance de Dieu. Et d'un point de vue spirituel, cette notion de feu associée au Saint-Esprit marque aussi l'action même du Saint-Esprit, pour ceux qui croient. En effet, Jean-Baptiste disait de Jésus, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le ministère de Jean-Baptiste était d'aplanir les sentiers, de préparer les cœurs au ministère de Jésus, en prêchant la repentance et en baptisant dans l'eau ceux qui acceptaient. Les gens venaient, confessaient leurs péchés et se faisaient baptiser dans l'eau du Jourdain en signe de purification et de changement de vie. Et Jean dit, mais Christ, lui, vous baptisera du Saint-Esprit, cet esprit qu'il compare au feu. Tel le feu, le Saint-Esprit assainit et purifie le cœur. Comme l'eau enlève la saleté extérieure, le feu, lui, élimine les impuretés qui sont à l'intérieur. Il fait fondre toutes choses et les sanctifie. Paul dit à l'église de Corinthe, aux chrétiens de l'église de Corinthe, il leur dit « Vous avez été lavés, mes frères. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. » Le Saint-Esprit, tel un feu, rend seul vivant et réel en nous ce que Christ a fait pour nous sauver. Il nous unit à Jésus et nous revêtons ainsi sa justice et sa vie. Ce feu, sous forme de langue séparée, vient se poser sur la tête de chacun des croyants. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est ces langues séparées qui viennent se poser sur la tête de chacun. Le Saint-Esprit se manifeste d'une manière puissante qui remplit toute la pièce. Mais au moment d'agir, le Saint-Esprit n'oublie personne. Chacun des croyants sera rempli de l'Esprit de Dieu. Chacun des croyants est au bénéfice de son Esprit. Cet Esprit va être donné en abondance à ceux qui croient. Chacun, au travers de cet esprit, sera marqué du sceau de Dieu, du sceau de celui qui appartient à Dieu. Ils doivent recevoir individuellement le Saint-Esprit. Ils doivent en être pénétrés, régénérés. C'est une nécessité personnelle pour chacun des croyants. Le Saint-Esprit remplit donc tous les croyants. Il nous est dit au verset 4, « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Avant que Jésus ne soit arrêté, il dit aussi à ses disciples l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. C'était la promesse de Jésus. Et aujourd'hui, cette promesse s'accomplit. Un des buts de la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est qu'il soit dans chacun des croyants, afin que s'accomplisse en eux l'œuvre de Christ pour ceux qui croient. Être rempli du Saint-Esprit implique que tout l'esprit humain soit submergé, plongé dans le Saint-Esprit. Le baptême de l'Esprit n'est pas simplement une aspersion, c'est une immersion qui envahit l'esprit humain. Tout l'être est rempli de ce feu qui purifie, et ils en furent pénétrés dans toute la faculté de leur être. Ils reçurent toute la plénitude de l'Esprit de Dieu à ce moment-là. Lumière, vérité, don, vie, principe de sainteté, l'Esprit de Dieu agit en chacun des croyants. Tout simplement, l'Esprit de Dieu rend effectif en nous et en eux la vie de Jésus. Plus encore, mes frères et sœurs, Dieu souhaite faire de nos vies sa demeure. C'est une promesse de Dieu. Lorsque Jésus parle encore à ses disciples, avant qu'ils ne meurent, il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Alors nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alors peut-être que les disciples, à ce moment-là, n'avaient pas pleinement saisi les paroles de Jésus. Mais au moment de la Pentecôte, je peux vous affirmer qu'ils ont compris ce que Jésus a voulu dire. Par la venue du Saint-Esprit, Jésus vient faire sa demeure en chacun des croyants pour nous unifier au Père. Sous l'ancienne alliance, vous savez, selon la loi de Moïse, Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple. Dieu a voulu faire sa demeure au milieu de son peuple. Il nous est dit en Exode 29, au verset 45, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. » Il nous est dit en Ézéchiel 37, au verset 27, cette même vérité, « Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dieu a voulu habiter au milieu de son peuple, au travers d'abord du tabernacle et ensuite du temple. Mais aujourd'hui, Dieu souhaite habiter en nous par son Saint-Esprit. Ce que le temple préfigurait, la demeure de Dieu, l'habitation de Dieu, Dieu le réalise pleinement en nous par son Saint-Esprit. En cela, nous sommes devenus, les croyants, ceux qui croient, le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit, le tabernacle de Dieu. Et Dieu vit en nous et se manifeste en nous comme il le faisait au temps de Moïse. Paul dit toujours, pour exhorter les chrétiens de l'église de Corinthe, à 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit à l'église de Corinthe, « Mes frères, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Jésus révèle avant sa mort à ses disciples qu'ils connaîtront à ce moment-là, par l'Esprit de Dieu, la communion avec lui. Toujours, c'est ce moment avant qu'il ne meure, il révèle encore cela à ses disciples. Il leur dit « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » En ce jour-là, il parle de jour du Pentecôte, le jour de Pentecôte où l'Esprit devait être donné aux disciples. Il dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » En ce jour de Pentecôte, les disciples connaissent ce que Jésus leur annonce par cet Esprit en eux. D'abord, l'unité de Christ avec le Père, qui leur a si souvent affirmé. Ensuite, ils font l'expérience intime de leur communion avec le Seigneur, en qui ils vivent et qui vit en eux. Ce lien direct avec Dieu, rétabli par Jésus, trouve son accomplissement dans le cœur des croyants par le Saint-Esprit. Alors les croyants, ce jour de Pentecôte, sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et maintenant, au travers d'eux, l'Esprit va agir. L'Esprit va se manifester. Et il va se manifester pour rendre témoignage aux hommes de la vérité. En effet, l'Esprit, le Saint-Esprit qui remplit les croyants, donne aux disciples la puissance de parler en différentes langues. Pourquoi ? Pour proclamer la vérité à tous les hommes. Aussitôt, ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Ils parlent dans différentes langues. On peut se poser la question, mais pourquoi le Saint-Esprit leur donne à ce moment-là la possibilité de parler en différentes langues ? Mais une des vocations de l'Esprit est de conduire dans la vérité, de rendre témoignage de la vérité. Et en cela, l'humanité entière a besoin d'entendre le témoignage de la vérité. Jésus dit à ses disciples, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. C'est ce que fait l'Esprit de Dieu. Chacun parle avec des langues différentes. Mais il n'y a aucune barrière pour le Saint-Esprit. Il n'y a aucune barrière de langue, aucune différence de langage, aucune différence même d'intelligence, aucune différence humaine. Tous doivent entendre la vérité de la parole. Et les personnes qui étaient présentes entendaient parler des merveilles de Dieu, nous dit le verset 11. Ils entendaient chacun les merveilles de Dieu. Ils venaient de toutes parts et chacun avait le droit et la possibilité d'entendre le message de la parole. Oui, comme nous l'avons dit ce matin, le message de la parole de Dieu, les merveilles de Dieu sont pour tous les hommes. Elles sont à proclamer pour tous les hommes, toutes les femmes, toutes les nations, tous les peuples. Il n'y a aucun arbitrage. Le message du salut est pour tous. L'Esprit de Dieu fait tomber à ce moment-là toutes les barrières humaines, même le langage, pour révéler la vérité. Ensuite, une deuxième caractéristique de l'action du Saint-Esprit, ici, c'est de convaincre. C'est de convaincre le monde de son besoin de repentance. Jésus dit à ses disciples, encore une fois, avant qu'ils ne soient enlevés, il dit du Saint-Esprit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Les croyants en ce jour de Pentecôte sont remplis du Saint-Esprit et témoignent de la vérité. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient convaincre les cœurs. Ce n'est pas l'homme qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour convaincre l'homme de quoi ? De son péché et de son besoin de repentance. Il réalise cette action nécessaire dans le cœur et dans les pensées de ceux qui entendent la parole. En ce jour-là, avec la manifestation de l'Esprit et après la prédication de Pierre, il nous est dit que beaucoup furent convaincus. Ceux qui acceptèrent la parole, nous dit le verset 41, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Cela n'est pas un fait d'homme. Cela est un fait du Saint-Esprit qui vient pour convaincre les cœurs du besoin de repentance. Depuis le jour de la Pentecôte, l'Église est investie d'une double mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit, dit Jésus. La vocation de l'Église, sa fonction spécifique, est de proclamer la royauté de son Seigneur, et ce, par la puissance de l'Esprit. Nous lisons cet ordre de Jésus donné à ses disciples avant qu'ils ne soient enlevés au ciel. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. En ce jour de Pentecôte, nous avons un double témoignage. Le Saint-Esprit est répandu sur les croyants afin que Dieu rende témoignage du Fils en nous. C'est le premier témoignage. Il rend témoignage de la vie de Christ en nous. C'est le premier témoignage que nous avons besoin. Et il rend effective cette vie en nous. Et à leur tour, l'Esprit leur donne la puissance de rendre témoignage de la vérité au monde, à tous ceux qui ont besoin de l'entendre. En Jean 15, au verset 26, Jésus dit que c'est le Saint-Esprit qui témoigne et qui donne de témoigner. Il dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Il rendra témoignage de moi à vous. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Vous le savez, mes amis, l'Église de Christ est née ce jour-là de l'effusion du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle de l'Évangile sera alors portée par l'Église et par la puissance de l'Esprit qui les unit à Christ partout dans le monde, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui. Et ce matin, je voudrais vous dire que, au travers de ce passage, nous voyons que Dieu a formé pour l'homme une bénédiction que le monde ne connaît pas et qui n'est pas possible de connaître par soi-même. Dieu a voulu que l'homme soit au bénéfice de sa grâce, manifestée au travers de Jésus-Christ. Par lui, nous avons le pardon des péchés et par lui, nous recevons le don de l'Esprit. Nous n'avons pas autour de nous une telle promesse. Il n'y a aucun homme, aucune religion, aucune organisation, aucun gouvernement, aucun État qui n'a formé pour chaque individu une telle promesse de bénédiction. Cette bénédiction est pour chacun d'entre nous. Dieu ne veut pas qu'il en reste un seul sur le côté de la route. Si Dieu a permis que son Saint-Esprit se sépare pour que chacun des croyants soit rempli, c'est parce qu'il souhaite que chacun soit au bénéfice de ce don merveilleux. Alors si aujourd'hui vous êtes interpellé dans votre cœur, comme les Israélites ce jour-là, ne retenez pas cet appel de Dieu. Ne résistez pas à cet appel de Dieu. Pierre, d'ailleurs, a terminé sa prédication au verset 38 en disant à tous ces Israélites qui avaient entendu sa prédication et qui disaient « Mais qu'est-ce qu'on doit faire, nous aussi, pour recevoir ce don de l'Esprit, comme les disciples? Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Ben, je vous dirai simplement les paroles de Pierre. Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette promesse est aussi pour vous aujourd'hui. Amen. »